other day. Them a hype from the other day. We know what go big up his style, them a follow, yeah. Take a year off, a living at the aircraft. From Mr. Breeze, everybody full of beer sauce. Diddy ya the baddest, we don't know what with them here off. Know me that you know, so who don't know what beer? Drop back on the street, back on the street. Yeah, no black wallaby, that I know me. Your love chat parakeet, lock back your beak. Action and speak, fat, slam a beat. Who said them have the hot song a street? At last week, it now last, not another week. One voice, lock your mouth when they done speak.
Watch get them a bass on your cheek.
I know everybody run a reel, watch it there. Them a clap on while you're dead, them a...
The following is a previously broadcast program.
Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des Immigrants. C'est Moukala comme d'habitude. Donc, La Voix des Immigrants sur Sécurité 90.3 FM à Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de réforme du système de santé. Donc, hier, j'ai lu un article parlant de réforme paru dans la presse et rédigé hier, par deux journalistes. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Et donc pour faire le lien avec notre sujet du jour, nous allons écouter donc un reportage d'une conférence, d'un monsieur, d'un professeur en sciences infirmières qui parle de réforme et des enjeux reliés au système de santé. Donc, on se laisse pour une brève petite pause. On se retrouve avec notre manchette du jour et on poursuit l'émission donc, avec notre reportage. Aujourd'hui, donc, l'émission sera brève. Donc, on va se centrer sur ces deux composantes, si je pourrais dire, de l'émission. Puis voilà. Donc, à tout de suite.
The FM band is from 88 megahertz up to 108.
You've got this frequency. We're going to call you CKUT. You've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio.
Very impressive.
You can sit on the moon and look like you pick up CKUT, clear as a bell.
Fascinating. Your analysis seems logical.
Me revoilà au micro. Donc, voilà, pour notre manchette du jour, nous avons un article publié plutôt le 15 juin, écrit par Tony Chouinard et Fanny Lévesque. Donc, publié dans la presse, c'est le but de faire une décentralisation vers les établissements, de recentrer la mission du ministère sur la définition des objectifs et des orientations stratégiques et de créer une toute nouvelle entité pour assurer une meilleure coordination. Cette réforme, a été guidée par... le rapport Michel Clair, si je pourrais dire le rapport Clair, Michel Clair est un ancien ministre et député et ayant présidé donc la commission d'études sur les services de santé et les services sociaux en 2000, et donc il a déposé par la suite un rapport en 2001. Et donc Monsieur Dubé, c'est appuyé sur les recommandations donc, de cet ancien ministre et député Michel Clair pour élaborer, donc mettre en place sa réforme. Et Mme Savoie sera celle qui sera chargée de l'exécution de cette réforme. Dominique Savoie note que bien que la réforme, ce qu'elle dit, c'est que... il y a la réforme actuelle. Cette réforme actuelle tient compte, de la réforme de 2015 présidée par M. Barrette. Et donc, ce qu'elle dit essentiellement, c'est que lors de la réforme de 2015, il y a eu des avancées, mais elle a également généré des difficultés. Donc, apparemment, il y a eu l'abolition de trop de postes de gestionnaires de proximité. Et c'est pour ça qu'entre autres, via cette réforme, on préconise l'embauche d'une centaine de cadres intermédiaires. Oui, centaines de cadres intermédiaires qui vont œuvrer davantage au niveau opérationnel. Donc, elle préconise une décentralisation, mais elle préconise également l'embauche de plusieurs nouveaux cadres. Avec la décentralisation, il faut recentrer la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la définition et des objectifs et des orientations stratégiques, l'évaluation de la performance et le suivi des résultats. Ce que Mme Savoie dit, c'est que le ministère doit s'éloigner des opérations pour se concentrer sur son rôle de gestionnaire, selon elle. Donc, la raison probable de l'embauche de plusieurs postes, d'une centaine de postes de cadres intermédiaires qui vont se charger de l'opérationnel et le ministère, j'imagine, la gestion des soins de santé et services sociaux au Québec. À travers donc, le rapport de Mme Savoie, on va, et puis je crois, on parle du rapport Savoie, donc je ne sais pas s'il est accessible, mais vous pouvez aller sur Internet là, puis, pour vous renseigner davantage sur le sujet. Donc, à travers ce rapport, on va venir clarifier les rôles et les responsabilités des différents paliers. La sous-ministre, donc Mme Dominique Savoie, recommande de créer une instance formelle de coordination et de supervision. L'objectif est entre autres de prévoir une coordination spécifique pour la grande région de Montréal, donc le 514-450, afin de favoriser la fluidité et la continuité des soins et des services aux usagers. Donc, une instance formelle de coordination et de supervision, donc avec pour objectif de prévoir une coordination spécifique pour la grande région de Montréal. De plus, ce qu'elle dit, c'est qu'il lui apparaît incontournable que le gouvernement réfléchisse à une révision de plus grande envergure des paliers de gestion actuels pour la création d'une nouvelle entité vers laquelle certaines responsabilités du ministère et du RSSS serait transféré. Bon, intéressant. Donc, on va voir un nouveau palier, puis donc il y aurait un transfert de responsabilité du ministère et du RSSS, du réseau de santé et de services sociaux, vers cette nouvelle entité. Donc, pour une coordination optimale, c'est intéressant. Je m'y connais plus, au niveau des soins de santé. Ce qui m'intéresse au niveau des soins de santé, la gestion, je peux pas vraiment, j'ai aucun mot à dire, je juge, mais ce qui me perturbe un peu dans toute cette histoire des soins de santé, c'est la situation des travailleuses et travailleurs particulièrement, donc des infirmières dont on parle, qui sont là, qui se plaignent constamment de leurs conditions de travail. Donc, est-ce que cette réforme du système de santé va régler la problématique des conditions de travail des infirmières, de tous les travailleurs du réseau de la santé? Voilà, je me pose la question. Parce qu'on parle de nouvelles instances, de coordination, etc. Mais est-ce que le fond du problème est davantage, après moi, les conditions de travail de ces infirmières, des préposés aux bénéficiaires, etc., etc. Donc, c'est peut-être une question à poser à Mme Savoie. Parce qu'on en parle peu, on n'en parle pas à travers, à moins que ce soit écrit quelque part dans les pages du rapport, mais est-ce qu'on parle du règlement, la problématique des conditions de travail difficiles que vivent les infirmières et l'ensemble des travailleurs de la santé. Bref, donc... on va pour faire le lien avec notre sujet, donc cette réforme du système de santé. Donc, écoutez un reportage, en fait, c'est une conférence, je dis bien, d'un monsieur, d'un doctorant qui est enseignant à l'université, Damien Kondantriopoulos. Et puis, donc, monsieur Damien parle des enjeux. Donc, de réforme, oui, mais beaucoup d'enjeux, donc, reliés au système de santé québécois. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant donc, d'écouter M. Damien, puis de se faire sa propre opinion également. Donc, c'est l'opinion de M. Damien, on a notre propre opinion, donc, voilà. Je pense que l'objectif, c'est qu'on ait le meilleur système de soins de santé, et donc, le plus optimal, le plus efficace, et voilà. Donc, On va écouter le reportage en la conférence ensemble, qui est une conférence là, de, je dirais, une heure à peu près. On n'écoutera pas le une heure au grand complet, bien évidemment. Donc, on va écouter le début, la partie, je dirais, initiale de la conférence. Si vous voulez écouter la suite, vous pourrez aller la télécharger sur YouTube. Juste avant, on va écouter donc la pièce musicale de Lionel Kizaba, qui est un artiste congolais, comme moi, donc la pièce Freedom. Et tout de suite, donc, je vais vous annoncer qu'il y a le Festival de Jazz International donc, de Montréal qui débute le 30 juin pour se terminer le 9 juillet. Ensuite, vous savez que j'effectue du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Et au Centre, nous avons donc l'Association des travailleuses et travailleurs d'agences de placement et travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Et donc, voilà, si vous avez besoin de discuter de vos conditions de travail, appelez-nous au Centre pour également l'ensemble des travailleuses et travailleurs qui vivent donc des conditions de travail difficiles, pénibles, qui, bon, voilà, qui se plaignent d'une précarité, peu importe. Appelez-nous au Centre, donc 1-514-342-2111, 1-514-342-2111. Vous avez également le site internet iwc-city.ca/fr/. Et donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. En fait, elle n'est pas terminée, mais on va la terminer avec le reportage, la conférence de monsieur Kondantriopoulos. Et donc, pour plus d'informations sur cette émission, ou si vous voulez nous rejoindre, enfin discuter, hein, tout simplement, vous pouvez nous rejoindre au département donc, de production, donc prod@commercialsecurity.ca. Vous pouvez également nous rejoindre, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et vous avez donc notre numéro de téléphone, 514-448-4041, 514-448-4041. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. En fait, on écoute le reportage de M. Damien, mais on se retrouve donc pour la prochaine émission, je dirais, le 28 juillet 2022. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'émission et je vous souhaite donc un bon Festival international de jazz de Montréal. Voilà, à bientôt.
90.3 FM, Montréal.
Ça n'a pas été une conférence facile à préparer pour moi parce que j'ai tendance à je suis habitué à parler devant des clientèles spécialisées. Là, on m'invite, c'est des gens qui savent essentiellement dans quel monde je travaille. Et préparer une conférence comme ça sur le système de santé, je me dis, bon, c'est quoi qui est important? Et plus je me demandais qu'est-ce qui était important, plus je revenais en arrière sur quels sont vraiment les fondements de notre système, pourquoi c'est organisé comme ça. Et puis, ça m'a obligé à revenir vraiment à qu'est-ce qui est l'essentiel. Et vous allez voir, mon propos est beaucoup centré sur l'essentiel. Je vais essayer d'être bref, c'est pas facile pour moi, pour garder une période de débat et d'échange à la fin. Comme vous le savez, dans une présentation, c'est important d'avoir un plan. Donc, j'ai fait une représentation graphique, vous pouvez vous y fier. Et le premier morceau, si on veut parler de système de santé, c'est l'argent qu'on y investit. Toutes les sociétés vont dépenser une partie de leurs ressources pour offrir à la population des soins. Ces ressources-là peuvent être privées ou publiques, je vais y revenir. Mais tous les pays dans le monde ont une partie de leur économie qui est dédiée à payer les soins de santé. Dans un pays comme le Canada, le Québec est proche de la moyenne, à peu près 12 % du produit intérieur brut, 12 % de l'économie, est investi pour payer les soins de santé. Donc, sur chaque dollar de l'économie canadienne ou de l'économie québécoise, vous avez 10 sous qui est investi pour les soins de santé. C'est massif. C'est probablement le plus gros secteur de l'économie. Et cette tendance à investir une partie significative de l'argent qu'un pays possède dans les soins est vraie, quel que soit le niveau de richesse d'un pays. Et vous allez voir, j'aime beaucoup les courbes, mais ici, vous en avez une première. C'est presque tous les pays du monde, 194 pays, c'est des données de l'OMS. Et vous avez en bas les dépenses de santé et vous avez à la verticale le PIB, donc la richesse d'un pays. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation linéaire forte entre les dépenses de santé et la richesse d'un pays. Plus un pays est riche, plus il dépense en santé, plus il est pauvre, moins il dépense en santé, mais la proportion est relativement stable, quelle que soit la richesse d'un pays. Ça, c'est quelque chose, il y a une leçon super importante à tirer ça. Des fois, on entend des débats où on nous dit « Ouais, mais si on privatisait, ou si on faisait ci, ou si on faisait ça, on économiserait de l'argent. » Mais sur le fond, là, si on regarde l'association, la corrélation entre les deux, elle est super forte. Donc, quel que soit un petit peu ce qu'on va faire, les dépenses de santé sont pas mal fixes. Elles sont pas mal fonction de notre richesse. On peut jouer à la marge. On peut essayer d'être plus efficient. Mais sur le fond, qu'est-ce qui détermine nos dépenses? C'est principalement la richesse du pays. Ça va poser, par contre, une question en termes de relations causales. Parce qu'on a tendance à penser, plus on investit en santé, plus c'est bon pour la population, plus on offre des soins, plus les gens vivent longtemps, vivent bien, sont bien dans leur pas, dans leur... La définition de l'OMS est très large, un état complet de bien-être mental et physique. Plus on dépense, plus on obtient. Et c'est pas si facile, parce que si on regarde, par exemple, les dépenses de santé, ici encore sur l'axe horizontal, puis on regarde l'espérance de vie, on voit qu'il y a une relation. Plus un pays dépense pour la santé, plus sa population a tendance à vivre longtemps. Alors on pourrait se dire, ben, donc les dépenses de santé, ça fait en sorte que les gens évitent les maladies et vivent longtemps. Vous pouvez remarquer aussi que l'association, elle est so-so. Hein. Un, ça ressemble beaucoup à une courbe longue, puis deux, l'association n'est pas si forte que ça. Mais vu que les dépenses sont principalement expliquées par la richesse, alors qu'est-ce qui nous dit que l'espérance de vie est expliquée par ce qu'on dépense comme soins? Qu'est-ce qui empêche de penser que c'est peut-être simplement le fait d'être riche qui nous garde en santé? Et quand on regarde d'autres indicateurs, alors ici vous avez le même genre de courbe, sauf que c'est la mortalité infantile. Puis vous voyez une relation négative, donc plus un pays dépense en santé, plus la mortalité infantile diminue. Je pourrais vous en sortir des piles. Là. On voit toujours une relation entre les dépenses de santé puis différents indicateurs de santé. Sauf que quand on regarde les mêmes associations, mais cette fois-ci, au lieu de mettre les dépenses de santé, on met la richesse, ah ben coudonc, c'est la même courbe. Et ça pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont en santé? Est-ce que c'est parce qu'on a un bon système de santé? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose qui détermine la santé d'une population? Cette question-là est fondamentale, parce que si c'est autre chose, supposons, et c'est loin d'être fou, que c'est parce qu'une société redistribue sa richesse, a un filet social, a peu d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, supposons que ça soit ça qui détermine la santé d'une population. Alors, finalement, les dépenses de santé ou comment on organise nos hôpitaux, c'est peut-être pas ça l'élément le plus central pour expliquer la santé d'une population. Il y a des données qui vont dans ce sens-là. Il y a en fait beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Il y a des données qui sont montréalaises et un peu anecdotiques, mais par exemple, il y a plusieurs études qui ont montré qu'à un endroit géographiquement très proche à Montréal, si vous habitez en haut de la côte, près de l'hôpital Glen, en haut de la côte, donc dans Westmount, ou si vous habitez en bas de la côte, donc dans Saint-Henri, vous allez avoir en moyenne à peu près 10 ans de différence dans l'espérance de vie. On vit pas mal plus vieux à Westmount qu'à Saint-Henri. On va voir cette association-là se tenir et se maintenir dans tous les milieux. Plus on est riche, plus on vit longtemps. Donc, qu'est-ce qui explique, là encore une fois, la santé? Il y a une étude extrêmement connue puis qui vaut la peine de discuter deux secondes qui s'appelle le Whitehall Studies. Whitehall Studies, c'est une étude qui a été faite en Angleterre. Elle s'appelle Whitehall parce que c'est le nom du bâtiment dans lequel une grande partie des effectifs de la fonction publique anglaise est hébergée. Et l'étude portait sur des fonctionnaires en Angleterre. C'est une étude longitudinale. On a suivi ces gens-là pendant des dizaines d'années. L'objectif était de comprendre qu'est-ce qui explique que certains vivent plus longtemps que d'autres, qu'est-ce qui explique l'apparition. Whitehall Study s'est beaucoup penché sur les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qui explique que des gens vont avoir une crise cardiaque puis d'autres non? Et Whitehall Study est intéressant pour une chose. C'est tous des gens qui n'étaient pas dans la pauvreté. On parle tous de fonctionnaires du gouvernement anglais, donc des gens qui ont un statut dans la société, qui sont ils sont pas dans la misère, ils ont un revenu qui est correct. Et l'étude se penchait beaucoup sur les différences entre les gens qui avaient des positions élevées dans la hiérarchie et les gens qui avaient des positions faibles dans la hiérarchie. Le petit graphique ici, c'est, vous voyez, donc, la mortalité totale dans la cohorte. Sur les dizaines d'années que les gens ont été suivis, il y a des gens qui sont morts. Donc, la mortalité. Et elle est organisée selon les 10 premières, les 10 suivantes et passé 20 ans de suivi de la cohorte. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Regardez, vous avez les gens qui sont classés au bas de l'échelle, les gens qui ont une fonction purement administrative. Vous avez des gens juste en haut dans la hiérarchie, un peu plus haut. Et les administrateurs, donc en haut de la hiérarchie, les gens qui sont en dessous, les secrétaires professionnels cléricales, et vous avez « others » qui vont être des gens qui sont subalternes, des gens qui sont préposés à l'entretien, des choses comme ça. Et vous regardez que pendant toute la durée de l'étude, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus ou moins vous mourrez, plus vous avez de chances de survivre. Et il y a quelque chose d'intéressant à regarder ces données-là parce que, comme je le dis, on ne parle pas de gens qui, parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins fondamentaux, se retrouvent dans la misère, puis là, vont mourir plus vite. On parle de gens qui ont des bons niveaux de vie. Même à l'intérieur de groupes qui ont des bons niveaux de vie, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, moins vous mourrez. Et ces études-là ont été corroborées avec des études qui ont été faites chez les animaux, des études qui ont été faites, entre autres, sur le stress chez les singes, des études qui ont été faites dans plusieurs contextes, et on trouve toujours la même chose. Pour être en santé, plus vous êtes socialement favorisé, plus vous êtes dominant dans la société, plus vous vivez vieux. Ces éléments fondamentaux-là, ils sont toujours à garder en tête quand on parle de système de santé pour se sortir de la vision simple. Ouais, mais c'est simple, la santé. On se construit de beaux hôpitaux bien neufs, on les remplit de médecins, d'infirmières et de d'autres professionnels, tous plus compétents les uns que les autres. On leur donne des ressources quasi infinies. Ça va garder le monde en santé. Cette idée simple est fausse. En fait, les hôpitaux sont super importants, on va y revenir. Les soins qu'on offre en première ligne, dans les cabinets de médecins, sont super importants, ne faites pas de doute. Mais si ce que vous regardez, c'est la santé d'une population, ce n'est pas ça où se trouve le crunch. On a certainement besoin de soins. Les soins vont être un élément du système. Puis on voit beaucoup de discussions sur mais on économiserait dans nos dépenses de santé si on faisait plus de prévention. Peut-être, mais peut-être pas. C'est très ambigu à savoir qu'est-ce que les soins représentent. Les soins visent à guérir des maladies, guérir des problèmes de santé ou limiter leurs effets nocifs pour les gens. Mais les soins ne vont pas rendre les gens immortels. Fait qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. La question est quand. Et le quand ne va pas forcément avoir un gros impact sur vos dépenses. De la même manière, pour quelqu'un qui a une maladie grave et incurable, ça peut être absolument fondamental pour la personne d'arriver à avoir des soins de qualité qui vont prolonger sa vie jusqu'à un certain point. Mais si vous regardez sur une population, ça va être anecdotique en termes d'espérance de vie de la population. Donc, quand on essaye d'analyser le système de santé, il faut bien se centrer sur qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi le but de l'histoire? C'est un peu de ça dont on va parler quand on va parler de comment on dépense nos ressources, pourquoi, et comment les modalités dans lesquelles on les dépense ont une relation avec le pourquoi. On va parler de privé et de public. C'est une autre pièce centrale si on veut comprendre quelque chose au débat. Privé-public, vous avez, à moins d'habiter sur une autre planète, là, en étant exposé au Québec au débat médiatique, c'est un débat récurrent, on ne peut pas y échapper, c'est tout le temps ramené au premier plan. Le privé, plus de place, moins de place, les frais accessoires, on a beaucoup entendu parler, est-ce que le privé est la solution? Et c'est un débat qui est souvent à demi incompréhensible parce qu'on met tout dans la même boîte. Quand on parle de privé et de public, techniquement, en santé, il faut regarder deux éléments au dossier, deux éléments qui sont très différents. Un, les dépenses de santé. Les dépenses de santé peuvent être privées ou publiques. Les modalités sur les dépenses, en gros, la question tourne autour de à qui on prend l'argent pour payer les soins? Pourquoi eux? C'est quoi les règles qui expliquent combien on prend à qui? Et comment on prend cet argent-là pour le dépenser pour qui? À qui on offre des soins? Combien? Et pourquoi? Ça, c'est le débat sur le financement. Alors, par exemple, si vous allez chez le dentiste, ben, selon toute probabilité, vous avez dépassé l'âge d'être couvert par le gouvernement du Québec, donc vous allez avoir des soins qui sont payés de façon privée. Votre dentiste est un entrepreneur privé, vous payez directement de votre poche, ou bien vous avez peut-être une assurance, c'est des dépenses privées par le biais d'une assurance. Il y a un volet du débat de la privatisation qui concerne les dépenses de santé. Quelle partie devrait être payée par le gouvernement? Quelle partie devrait être payée par votre poche? Quelle partie devrait être des assurances privées? C'est un débat extrêmement important. Mais il y a une autre face à la médaille. Il y a ce qu'on appelle la dispensation des soins. Quand vous allez dans une clinique médicale, si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille ou si vous allez dans un centre rendez-vous pour un petit bobo, que votre clinique médicale soit n'importe quelle appellation ou que ce soit un GMF, vous allez rentrer dans cette clinique-là. C'est une clinique qui est techniquement une entreprise privée à but lucratif. Il y a un propriétaire à la clinique, quelqu'un qui a investi de l'argent, qui a signé le bail, qui a acheté des machines. La clinique médicale au Québec est généralement une entreprise privée. Mais quand vous y allez, vous devez probablement présenter votre carte soleil. On va probablement, surtout maintenant, depuis une semaine, pas vous charger de frais en plus. Vous allez consommer des soins dans une structure privée qui sont payés avec de l'argent public. La structure de dispensation est privée, le financement est public. Si vous allez à l'hôpital, vous allez avoir des soins dans une structure qui est, au Québec, publique. Normalement, vous allez aussi donner votre carte soleil. Normalement, on ne va pas vous charger quoi que ce soit, sauf, supposons que vous n'ayez pas envie d'être dans une chambre à 11 personnes, vous avez envie d'être dans une chambre tout seul. On va vous charger à l'hôpital des frais pour être dans une chambre tout seul. Vous êtes à ce moment-là dans une structure de soins publique. Une partie des frais sont payés par le gouvernement, mais on va vous en facturer directement à vous une partie. Donc, vous allez être en train de contribuer à des dépenses privées dans une structure publique. Ce que je suis en train d'essayer de vous illustrer, puis c'est vraiment important pour comprendre les questions, c'est quand on parle de privé et de public, est-ce qu'on parle de qui paye et qui reçoit, la circulation de l'argent? Dans ce cas-là, on parle de financement privé ou public. Un bout du débat. Ou est-ce qu'on parle de à qui appartient la structure, à qui appartient le bâtiment, qui a signé le bail? Est-ce qu'on parle d'une entreprise publique comme un hôpital? Est-ce qu'on parle d'une structure privée à but lucratif, d'une structure privée à but non lucratif? À qui appartient le moyen de production? Là encore, ça peut être privé ou public. On va revenir là-dessus, mais on ne comprend jamais rien au débat privé-public si on met dans le même panier financement et dispensation. Ici, je vous ai fait un graphe d'une extrême lisibilité qui représente les dépenses de santé en proportion du PIB, donc de la richesse d'un pays, au fil du temps, donc de 1960 à 2014, et c'est tous les pays de l'OCDE, plus quelques pays extérieurs à l'OCDE pour lesquels l'OCDE possède les données. Ce que je veux montrer avec ce graphique-là, c'est qu'on est dans un monde dans lequel, quel que soit votre amour pour le privé, pour le public, quelle que soit la nature de votre système, on est dans des sociétés qui sont en train d'augmenter l'importance des systèmes de soins dans l'économie et dans la structure sociale des pays. Vous voyez une jolie droite de régression, là, et il y a clairement une augmentation de la proportion de la richesse d'un pays qui est investie en santé dans tous les pays. Certains avec plus, la droite tout en haut, là, c'est les États-Unis. Donc, certains avec des dépenses qui sont largement au-dessus de la moyenne, mais sinon, vous regardez, les pays bougent pas mal tous en même temps. Donc, là encore, il y a un élément. Si on voyait des trajectoires très différentes, des pays investissent de moins en moins en santé, d'autres de plus en plus, dans certains c'est très rapide, dans d'autres c'est très lent, on pourrait se dire, c'est quelque chose qu'on contrôle. Mais quand on regarde un graphique avec autant de cohérence dans les courbes, on se dit, on est tous dans le même bateau. Et il y a des éléments de notre système sur lesquels on n'a pas tant de contrôle que ça. La technologie, les capacités à traiter les gens, les structures similaires à travers tous les pays. Vous pouvez aller dans un hôpital à Montréal, vous allez regarder comment c'est organisé, vous allez voir des départements. Les départements sont organisés beaucoup par spécialité médicale. Vous regardez l'organigramme, vous pouvez aller au Japon ou au Burundi ou au Brésil, vous rentrez dans un hôpital et vous allez voir, selon toute probabilité, des structures qui sont extrêmement proches. Il y a quelque chose qui est très similaire à travers la planète sur la structure du système. Mais pas entièrement pareil. On a beau être dans le même bateau, on a des trajectoires un petit peu différentes. Ici, vous avez toujours les pays de l'OCDE et vous avez leurs dépenses de santé par personne. Puis pour pouvoir les comparer, c'est par personne en dollars, puis le 3 petit p, c'est à parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire que c'est une unité qui permet de mettre, c'est comme un taux de change, mais qui permet de savoir pour une même quantité absolue de richesse, c'est quoi le taux de change qu'il faut utiliser pour comparer des yens avec des dollars, par exemple. Bon. Quand on met tous les pays de l'OCDE comme ça, en fait, ils sont rangés dans un ordre. Mais je ne sais pas si l'ordre vous apparaît à premier abord. Je fais exprès pour que ce ne soit pas si évident. Ils sont rangés du pays qui a le moins de dépenses privées, qui, dans l'OCDE, s'avère être la Turquie, au pays qui a le plus de dépenses privées, qui, dans l'OCDE, s'avère être les États-Unis, suivi de la Suisse, suivi de l'Irlande, suivi de l'Australie, suivi du Canada. Puis le Québec est un petit peu plus élevé que la moyenne du Canada pour ce qui est du privé. Quand on parle des dépenses de santé du monde dans lequel on est, du Québec et du Canada, on est le cinquième pays de l'OCDE dont les dépenses sont les plus privées. Et regardez, par exemple, en vert, vous avez les dépenses publiques. Regardez si vous voyez une association entre les dépenses totales, le vert plus le rouge, et les dépenses privées. Si vous trouvez une association, on va probablement nommer un test statistique en votre nom. Il n'y a clairement pas d'association. Ce qu'on voit, c'est aussi que le Canada est un pays avec des dépenses relativement élevées et un système relativement privé. On parle de financement de la santé. Et il y a certains pays qui ont le bon goût de donner plus d'accès, plus de détails dans les données, qui permettent de voir, quand on regarde le rouge, le privé, les dépenses privées, se décomposent en deux grandes familles. Il y a les dépenses privées que vous allez payer par le biais d'une assurance. Tous parmi vous qui allez avoir une job steady au Québec, vous allez avoir une ponction sur votre chèque de paye qui correspond à des retenues pour une assurance privée complémentaire que vous allez payer. Cette assurance privée va couvrir des choses comme une partie des soins dentaires, une partie des soins pour les médicaments, une partie des soins d'hébergement si vous voulez une chambre semi-privée à l'hôpital et un paquet d'autres choses du même acabit. Une autre partie des soins, vous allez les payer de votre poche. On va vous demander un copaiement à la pharmacie. Vous allez devoir payer des choses qui ne sont pas couvertes par votre assurance. Donc, vous allez payer directement de votre poche. Quand on regarde donc, les assurances publiques, donc les dépenses du gouvernement, les assurances privées et les dépenses directes des ménages, on voit une tendance qui est quand même, en fait, ce qu'il faut retenir de ce graphique-là, quel que soit le pays, plus de la moitié, puis quel que soit le pays, ça inclut les États-Unis, plus de la moitié des dépenses de santé sont payées par des assurances publiques. Et quand on additionne les assurances publiques et les assurances privées, le vert et le orange, on se rend compte que c'est l'écrasante majorité des dépenses de santé qui sont payées par des assurances, toutes sortes d'assurances confondues. Pourquoi? Il y a une raison fondamentale à ça. Les dépenses de santé sont ce qu'on appelle une dépense catastrophique. Catastrophique, ça veut dire que tout va bien, vous êtes heureux, vous balancez vos dépenses et vos revenus, vous avez des petites économies. Et là, vous passez sous un autobus ou bien vous avez un cancer. Et là, tout d'un coup, c'est clair qu'il n'y a aucune façon par laquelle vos moyens financiers vont vous permettre de faire face aux dépenses de santé qui viennent de vous arriver. Avant le cancer, dans de nombreux cas, c'est des dépenses de santé qui vont être de l'ordre de 100 000 $ et plus. Il n'y a à peu près personne qui est capable, comme ça, en même temps, de perdre sa job, d'arrêter de travailler et de mettre sur la table 100 000 $ pour payer ses soins de santé. Okay? Ce qui fait que dans tous les pays du monde, les sociétés se sont organisées pour que les gens soient protégés du mieux possible contre ces dépenses catastrophiques, contre le fait qu'à un moment donné, ça se peut que vous passiez sous un autobus. Et donc, vous allez avoir des structures qui protègent les gens, qui font en sorte que on ne soit pas à la merci de la maladie. Et c'est le but de tous les systèmes de financement des soins de santé. Tous les pays riches ont des systèmes qui protègent les gens contre la maladie. Les seuls endroits dans le monde où vous n'allez pas avoir ces systèmes-là sont des pays du tiers-monde avec des niveaux de revenus extrêmement faibles. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Ben, le monde meurt, c'est tout. C'est ça. C'est vrai même aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez qu'un peu plus de la moitié des dépenses de santé sont publiques. Et quand on ajoute les assurances privées, c'est proche de 80 %. Et si on regarde le Québec, on n'a pas le détail, paiement privé direct ou paiement par assurance, mais on voit encore une fois qu'on a un système qui n'est pas parmi les plus publics du monde, en fait. Si on se compare à des endroits comme la France ou la Belgique, on a un système qui n'est pas si public que ça. Donc, quand on regarde les dépenses de santé, on se protège par le biais des assurances parce que c'est des dépenses catastrophiques. Et ici, vous avez un graphique qui n'est pas... Il faut faire un petit effort pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, mais il est vraiment fondamental à comprendre. Vous allez avoir les dépenses par personne en santé pour les différents groupes si on répartit en déciles la population. Vous avez ici les gens qui n'ont rien dépensé du tout. Vous avez ici les gens qui ont les dépenses de santé, qui ont des coûts pour eux-mêmes, pour les soins de santé, qui sont dans les 10 à 14 les plus faibles, et ainsi en augmentant. Ici, vous avez les 5 % des gens dont les dépenses ont été les plus fortes. Et ici, vous avez le 1 % des gens dont les dépenses ont été les plus fortes. Vous regardez la petite ligne rouge, c'est la moyenne. Et c'est des données qui viennent du Manitoba, donc ce n'est pas sur une autre planète. Les dépenses moyennes pour une personne au Canada étaient de l'ordre de 2 200 $ de dépenses publiques pour les soins. C'est en moyenne ce que ça coûte. Mais regardez dans ce cas-ci comment la distribution est organisée. La moyenne ne veut pas dire grand-chose. Jusqu'à par ici, en fait, pour 80 % des gens, les dépenses de santé sont en dessous de la moyenne. Il y a 20 % des gens seulement dans la population dont les dépenses de santé sont au-dessus de la moyenne. Et regardez où est l'essentiel de l'argent. L'essentiel de l'argent... c'est pour le 1 % des gens qui ont les dépenses les plus élevées. Qui sont ces gens-là? Ceux qui sont passés sous un autobus, ceux qui ont le cancer, et un autre groupe super important, ceux qui sont en train de mourir. En fait, les dernières années de vie, les dernières 2-3 années de vie d'un humain, pas celui qui est passé sous l'autobus puis qui en est mort, là, mais le reste du monde, ceux qui meurent de vieillesse, entre autres, ceux qui meurent d'un cancer, ceux qui meurent d'une longue maladie, coûtent extrêmement cher. Et c'est vrai dans tous les systèmes. Ce qui fait que quand un des trucs dont on discute régulièrement sur la place publique, qui est un débat horripilant, c'est « Ouais, mais vous savez, si on demandait 10 piastres au monde quand ils vont chez le médecin, le monde arrêterait de gaspiller, là, on sauverait plein d'argent, là, plein de systèmes iraient bien. » Ce genre d'idée stupide est connu dans le domaine comme un zombie. C'est une idée idiote, intellectuellement morte, puis qui revient tout le temps à cœur et le pompe, puis on pourra en discuter pourquoi après. Mais ces idées-là sont totalement stupides parce que on ne dépense pas l'argent dans notre système essentiellement pour les 2-3 visites à l'urgence inutiles. On dépense l'argent dans notre système pour eux. C'est eux qui coûtent cher. Puis après ça, on peut dire, on a-tu envie d'arrêter? On va dire au monde qui est passé sous l'autobus, hey, c'est donc bien plat, tu sois passé sous l'autobus, mais regarde, écoute, ah, c'est ça qui est ça. Non, probablement que c'est une des valeurs fondamentales de la société de dire, il faut faire quelque chose de façon à assurer les gens qui sont vraiment pas chanceux que la société va s'occuper d'eux. Et le même graphique est vrai, même si on prend des gens qui ont des maladies chroniques. Ici, par exemple, c'est les gens qui ont... je pense que c'est les diabétiques, puis parce qu'il y a toute une série de graphiques identiques. Ce qu'on voit, c'est exactement la même distribution. Le niveau moyen augmente. Par exemple, pour un diabétique, au lieu d'être à 2 000 $ de frais moyens par année, c'est 7 000 $. Mais quand on regarde la distribution, ceux qui sont les plus chers sont le 1%. Et là, le 1% des diabétiques les plus chers ont des dépenses de santé au-delà de 160 000 $ par année. Beaucoup d'argent. Et là encore, comme société, qu'est-ce qu'on fait quand on se donne un système de santé payé par des assurances? On se dit collectivement qu'on a envie qu'une partie de ce que nous, on ne dépense pas parce qu'on a la chance d'être en santé, on va quand même le payer pour payer des soins aux 1% des gens qui sont vraiment pris avec de gros problèmes de santé. Je vous ai mis une citation qui est une de mes citations préférées. Le monsieur ici s'appelle Anurin Bevan. C'est un politicien anglais après la Deuxième Guerre mondiale et c'est un des politiciens qui a joué un rôle important dans la création du système de santé britannique, le National Health Service. Le système de santé britannique qui est important pour nous parce que quand le Canada a décidé, après tout le monde, de se doter d'un système de santé public, on a copié les Britanniques. Donc, à de nombreux égards, notre système de santé est fondé au niveau du financement puis de sa structure sur le système de santé britannique. Il y avait des débats en Angleterre après la Deuxième Guerre mondiale sur la création de ces systèmes de redistribution. Il y a cette citation, « La maladie n'est pas un luxe que les gens ont envie de se payer, ni un crime pour lequel ils devraient être pénalisés. Mais la maladie est une mauvaise fortune dont le coût doit être assumé par l'ensemble de la communauté. » Ce principe-là est le principe fondateur du système de santé canadien et de ce qui reste du système de santé québécois. C'est cette notion de redistribution. C'est la notion que la majorité d'entre nous vont payer plus que ce qu'ils consomment de façon à ce qu'une minorité d'entre nous puisse recevoir plus que ce qu'ils ont payé. Et à cet effet-là, le système de santé est un énorme Robin des Bois institutionnalisé. Ce qui fait, il va chercher de l'argent proportionnellement dans la poche des plus riches et dans la poche des bien portants pour le transférer aux plus pauvres et aux plus malades. C'est le principe de redistribution. C'est le principe avec lequel on finance notre système. Et c'est un principe sur lequel on peut scientifiquement le décrire. On peut dire c'est comme ça que marche la machine, mais il n'y a rien là-dedans qui relève de la science quant à la décision qu'on a prise. C'est une décision qui est fondée sur des valeurs de société. On a décidé que comme société, on pensait que c'était bien de partager ce type de redistribution-là. Puis là, on en revient au débat privé-public, puis à l'amusant argument qu'on va retrouver souvent de gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que si on avait plus de privé, là, ça coûterait moins cher. » C'est parce que, comme on l'a vu au début, là, les dépenses de santé sont pas mal juste fonction de notre richesse, puis qu'on finance privé ou qu'on finance public, on est certain que ça ne nous coûtera pas moins cher que 12% de notre PIB. Il n'y a aucun exemple sur cette planète-ci, là, peut-être sur d'autres planètes, les gens ont des trucs, mais sur cette planète-ci, il n'y a aucun exemple d'un pays avec notre niveau de richesse qui dépense vraiment beaucoup moins que 10-12% de son PIB. Fait que privé-public, on est sûr que ça ne nous coûtera pas moins cher. Puis on est sûr aussi d'une chose, c'est que ultimement, la totalité de nos dépenses de santé au Québec va être payée par la population du Québec. Fait qu'on est sûr de payer le même montant, puis on est sûr que c'est nous qui le payons. Fait que là, quand les gens disent « Ouais, mais si c'était privé, ça coûterait moins cher. » Là, tu dis « Ben, c'est parce que dans ces cas-là, c'est quoi, les extraterrestres? Quelqu'un d'autre? » Tout d'un coup, une autre civilisation va débarquer chez nous, puis va nous dire « Hey, je paye pour vous, les amis, ça, c'est ma carte. » Donc, quand on parle de débat privé-public, ce dont on parle, c'est de savoir qui va payer. Ça va être nous, collectivement, mais nous, pas également. Un élément fondamental, c'est dans notre système, l'idée, c'est tu payes par les impôts. Plus tu es riche, plus tu payes. Rapidement, à un certain niveau de revenu, tu vas commencer à payer pour d'autres mondes, pour les gens qui ne payent pas d'impôts, pour les gens qui sont les plus pauvres, pour les gens qui sont sur le bien-être social. Donc, rapidement, quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, tu vas payer pour toi, pour ta famille, puis pour un paquet de monde que tu ne connais pas. Si on privatise notre système, le message est « Moi, je veux payer pour moi, pour ma famille, puis garder un petit peu de cash pour moi si j'en ai assez, puis le reste du monde, je m'en fous. » Là encore, c'est un jugement de valeur. C'est pas un élément scientifique. Mais c'est quelque chose que, comme société, on doit se décider à faire. Mais on ne peut pas, de façon minimalement cohérente, dire « Ah, oh, c'est parce que ça va coûter moins cher, c'est les extraterrestres. » OK? Pas d'extraterrestres. Et là, on en revient à « OK, donc on est pas mal sûr de combien ça coûte. On peut se poser des questions de valeur sur qui va payer, qui va recevoir. » Et un autre élément dans le débat, c'est pourquoi on paye. Est-ce qu'il y a des choses plus importantes que d'autres? C'est sûr qu'il y en a. Il y a probablement des éléments. Un, comme je l'ai dit, la redistribution de la richesse dans la société fait probablement beaucoup pour la santé d'une population. Des affaires comme ce qu'on dépense dans les CPE, c'est probablement plus important pour la santé de notre population que beaucoup de ce qu'on dépense dans les hôpitaux. Donc ça, il faut toujours le garder en tête, combien on dépense pour la santé publique, ou plutôt au Québec, on devrait dire combien on ne dépense pas pour la santé publique, aussi un élément fondamental dans l'explication de nos dépenses. Mais on peut se poser des questions d'efficience, de pertinence et de qualité. Qu'est-ce qu'on devrait payer avec l'argent qu'on a? Ça, c'est les dépenses au Québec, à travers le temps. Donc on a des données depuis 1975, c'est des dépenses par personne. Donc, ça tient compte du fait que depuis 1975, la population a augmenté, mais les courbes ne sont pas affectées parce que c'est des dépenses par personne. Et c'est des dépenses en dollars constants, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'inflation. Au fil du temps, on s'entend que les dépenses en dollars courants ont augmenté, mais là, on a rabaissé tout ça pour que ça soit comme la même valeur. Et vous regardez où on met l'argent. En haut, les hôpitaux et autres institutions. En dessous, vous avez la courbe mauve, les médicaments. Celle d'en dessous, vous avez les médecins. Encore un petit peu en dessous, en vert, vous avez les autres professionnels, toute la gang. Fait que remarquez quand même, en termes d'effectifs, on a 20 000 médecins au Québec, puis on a 75 000 infirmières, plus les autres professionnels. Okay. Et ensuite, vous avez le reste. Quand on parle beaucoup là, de tout le gaspillage qu'on a dans l'administration, puis toute la bureaucratie, là, que ça nous ruine, ben, je veux dire, c'est là, OK? Fait que, non, mais c'est juste pour garder les choses en proportion, pour ne pas dire n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est frappant dans nos dépenses quand on revient à peu près 2010. À partir de ce moment-là, on a, comme société, changé quelque chose. On a coupé dans nos dépenses d'établissement. Depuis 2010 à peu près, on désinvestit dans les hôpitaux. Fait quand les gens, si vous allez plus tard faire une profession en santé, vous allez travailler dans un hôpital, le monde va vous dire « c'est écœurant comme on coupe ben, ». C'était vrai. Vous avez les dépenses de médicaments. Deux tendances. Une tendance lourde. Jusque dans les années 80, même 90, les médicaments étaient une part, somme toute, marginale de nos dépenses de santé. La part de nos dépenses de santé qui s'en va dans le médicament croît de façon extrêmement importante. Fait qu'en gros, une tendance lourde vers les médicaments de plus en plus chers. Après ça, dans le détail, ben, depuis 2010, on coupe dans les médicaments. On peut en discuter en détail, il y a toute une série de facteurs qui se passent là. Et par contre, le reste stagne ou diminue. Un secteur de dépenses dans lequel on investit massivement, la rémunération des médecins. Et ce n'est pas tellement pour mettre l'accent sur l'argent qu'on donne aux médecins, mais pour distinguer deux choses quand on finance notre système. Quand il y a une augmentation de dépenses, ou une diminution, mais quand il y a un effet sur les dépenses, il faut distinguer l'effet de prix de l'effet de quantité. Supposons que dans les dépenses de médicaments, avant on achetait une boîte de pilules, maintenant on achète 100 boîtes de pilules. Nos dépenses vont être multipliées par 100 si le prix de la boîte de pilules ne bouge pas, puis on a 100 fois plus de pilules. Okay? Mais supposons que le prix de la même boîte de pilules vient d'être multiplié par 100. Même effet sur les dépenses, sauf qu'à la fin, tu as juste une boîte de pilules. Okay? L'effet sur l'accès aux services est très différent. Quand on regarde nos dépenses de santé, on est en train de couper assez brutalement dans tous les secteurs, sauf la rémunération médicale. Et là, je ne veux pas aller... Je vais y revenir sur la rémunération médicale. Et on va sauter ça. On va sauter ça aussi. Quand on regarde la rémunération médicale, on est en train de faire quelque chose qui ressemble... Ici, vous avez, pour les médecins omnipraticiens, depuis 2009 jusqu'à 2013, le nombre de services par personne. C'est tout ramené, normalisé sur une même échelle de 100. Vous avez... En bleu, les courbes, c'est le nombre de médecins, donc on augmente le nombre de médecins. En vert, c'est les dépenses par médecin. Et en noir, en haut, vous avez l'argent qu'on met dans le système. En rouge, vous avez le nombre de services, puis en rouge, tout en bas, vous avez le nombre de services par personne. Qu'est-ce qu'on regarde? Comme société, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on investit massivement dans une augmentation de prix unitaire. Pour le même service, on a décidé qu'on paierait plus cher. Choix de société. Là, on a dit, comme société, on a envie d'augmenter le niveau de revenu de nos médecins. C'est un choix qui a été fait. Mais on s'entend que ça ne fait pas plus de services. En fait, techniquement, ça en fait même un peu moins, parce que plus tu payes le monde, plus ils prennent des vacances. C'est comme ça. Et cet effet de prix-là, il est particulièrement visible et brutal chez les médecins, mais on a un système de santé au Québec dans lequel, quand on se compare au Canada, on est assez similaire. Quand on se compare au reste du monde, on n'a généralement pas beaucoup de lits d'hôpital par habitant, on n'a pas beaucoup d'infirmières par habitant, on n'a pas beaucoup de médecins par habitant. En fait, on n'a à peu près rien de beaucoup par habitant. Mais nos dépenses de santé sont plutôt dans les dépenses élevées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un système qui repose sur des prix unitaires élevés across the board. On paye cher pour chaque lit qu'on a, on paye cher pour chaque infirmière qu'on a, on paye de plus en plus cher pour chaque médecin qu'on a. Comme société, c'est un choix qu'on peut faire. On se dit, on veut très bien rémunérer nos médecins, on veut bien rémunérer nos professionnels, on veut bien rémunérer tout le monde. OK, mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire que comme société, on peut pas, on n'a pas de, il n'y a pas de lousse. On n'a pas vraiment de ressources qu'on peut gaspiller. Il y a des pays dans le monde, l'exemple le plus marquant, ça serait Cuba. Cuba a décidé qu'ils auraient des milliers de médecins, mais par personne, là, comme 10 fois plus que nous. Puis ils les paieraient des peanuts. OK, ça veut dire qu'à Cuba, tu peux vraiment te permettre d'avoir des médecins partout qui font tout. Mais ici, tu ne peux pas faire ça, parce que sinon, on est tous ruinés. Donc, il y a quelque chose dans la nature de notre système qui nous oblige à être un petit peu intelligent dans l'utilisation qu'on fait des ressources. Ici, vous avez les spécialistes, puis c'est assez similaire. Ce qui va encore une fois poser la question de, OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent, puis comment on le dépense, et on ne veut pas gaspiller. Et ça met la pression sur l'ensemble du système pour organiser de façon cohérente nos ressources. Un deuxième élément important, puis ça, c'est des résultats qui sont tirés d'une étude d'une revue extrêmement sérieuse dans le domaine, la Annual Review of Public Health en 2007, qui a sorti un article dans lequel ils se sont intéressés à la prévalence de certaines maladies courantes. Fait que si vous habitez, encore une fois, pas sur une autre planète, vous allez en avoir entendu parler du vieillissement de la population et des maladies chroniques. Les maladies chroniques, oh là là, les maladies chroniques, notre système, les maladies chroniques, c'est difficile, vous comprenez, les maladies chroniques. Et combien il y a de gens qui ont des maladies chroniques? Tous les gens qui ont le diabète, puis l'hypertension, puis le cholestérol, et blablabla. OK. Alors, c'est quoi quelqu'un qui a un niveau de cholestérol élevé ou c'est quoi quelqu'un qui est diabétique? C'est quelqu'un dont l'indice mesuré sur la machine en termes de quantité de cholestérol sanguin, en termes de pression sanguine, en termes de niveau de sucre dans le sang, c'est quelqu'un qui est au-dessus du seuil. Okay? Il y a un seuil fixé par la communauté médicale. Bien, pas vraiment par la communauté médicale, en fait. Parce que le seuil en question, l'industrie pharmaceutique est très, très, très intéressée à ce qu'on joue avec le seuil. Depuis des années, dans toutes les sociétés, le Canada utilise pas mal les mêmes seuils que les États-Unis. Avant, tu étais diabétique si ton niveau de sucre était là. Puis là, on a dit, bien, en fait, tu es diabétique là aussi. Puis en fait, même là, tu es quand même pas mal diabétique. Puis maintenant, on est rendu à dire, puis là, ici, maintenant, tu souffres de prédiabète. OK? Même chose pour le cholestérol, même chose pour l'hypertension. Et au fur et à mesure du temps, on a abaissé les seuils où on considère le monde malade. Et là, il y a des chercheurs qui ont commencé à se dire, ben, avec les nouveaux seuils, là, il y a combien de personnes qui ne seraient pas malades? Okay? Et ce n'est même pas une joke, mais si on prend ces 3 maladies chroniques, les gens qui ont plus de 50 ans aux États-Unis puis au Québec, ça va être pareil. Plus de 50 ans, 97 % des gens ont au moins une de ces maladies chroniques. Fait que si on le traduit en français, là, ça veut dire qu'on est dans une société actuellement où les normes scientifiques d'établissement du seuil des maladies chroniques font en sorte que avoir 50 ans est une maladie. Vous riez, mais ce n'est pas une blague. Et dans une société où on considère qu'avoir 50 ans est une maladie pour laquelle il existe une médication appropriée qui doit être prise sur une base quotidienne, ça veut dire que ça va nous coûter très, très cher en médicaments. Okay? On est dans une société dans laquelle tout le monde, à partir d'un certain âge, est malade chronique. Imaginez la pression que ça met sur les structures de soins. Là. Tous les médecins omnipraticiens disent « Oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup de gens à traiter, on a du mal à fournir à la demande. »
Oui, mais à partir du moment où tu dis que tout le monde qui a plus que 50 ans est malade, il faut qu'ils aillent voir régulièrement leur médecin pour, entre autres, se faire represcrire des médicaments. Méchant job. Fait qu'il y a un bout là-dedans aussi qui est qu'est-ce qu'on fait avec la définition de la maladie puis qu'est-ce qu'on gagne. Parce que par ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que tu peux mettre le seuil où tu veux, mais il y a rapidement un niveau où pour les gens qui sont faiblement affectés par ces maladies, les pilules qu'on leur prescrit n'ont pas de bénéfice. Ça ne donne rien. On pourrait prendre l'argent qu'on utilise pour acheter ces médicaments, le brûler, puis ça serait pas mal la même affaire. De la même façon, il y a toute une série de problèmes sur les soins qui sont offerts qui probablement servent à rien. Et des très belles études américaines qui ont été faites là-dessus j'ai trouvé le rewind finalement, sur les variations aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des systèmes publics pour les plus pauvres et les personnes âgées, puis vous avez beaucoup de données. Et ce qu'on voit, c'est que les différences, supposons que vous habitez, même profil, même genre de type de maladie, même genre d'âge, puisque vous voulez, vous habitez dans une région dans laquelle ça ne coûte pas trop cher de fournir des soins, ou au contraire, dans une région où ça coûte très cher. Au cours de votre vie, ben, ça va coûter entre 80 ou 100 000 $ de différence entre les soins qui vont être payés pour vous si vous êtes dans une région chère ou une région pas chère. Ce qui veut dire, là encore, si on le traduit en français, supposons qu'à quelqu'un qui naît en Floride, on offrait des soins aussi bons que celui à quelqu'un qui est dans le nord des États-Unis, Portland, mais au prix de Portland, on pourrait lui offrir tous les soins, puis en plus lui acheter une Maserati. Ça vous donne un ordre de grandeur sur la quantité de ressources. Est-ce que le monde à Portland est moins bien soigné? Est-ce qu'ils meurent plus vite? Est-ce qu'ils sont plus malades? Non. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Il s'en va où? Il ne s'évapore pas, soyez rassurés, il tombe toujours dans la poche de quelqu'un. Ça, on est sûr que quelqu'un l'a touché. Ce dont on est beaucoup moins sûr, c'est est-ce que ça a servi à améliorer la santé des gens pour lesquels on l'a payé. Ça, on est pas mal sûr, malheureusement, que non. On est pas mal sûr que ça a servi à rien. On est pas mal sûr que ça a servi à payer des tests inutiles, à payer des tests plus chers, à payer des visites de suivi qui servent à rien, à faire des pontages coronariens qui n'ont pas prolongé la vie, et toute autre futilité desquelles nos systèmes sont capables. Il y a une capacité à peu près infinie des systèmes de soins à produire. Et là, c'est un autre élément qu'il faut bien comprendre. Des fois, on dit, oui, mais supposons que, là, tu sais, à la place, là, pour avoir plus de soins, on se paye beaucoup, beaucoup plus de docteurs, mais là, on laisse le marché agir. Là, tu sais, plutôt que de dire, on va payer très cher nos docteurs, on laisse la compétition. Là. Celui qui offre les soins les moins chers, c'est lui qui va les avoir, etc. Puis comme ça, on sauverait de l'argent. Ça peut marcher dans certains types de produits, pour des produits de consommation courante. Mais ça ne marche pas pour les soins de santé. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement les professionnels qui déterminent pour vous combien vous avez besoin de services. Supposons que vous allez consulter votre médecin et il vous dit « Ah, vous avez une petite affaire au cœur, on va faire des tests, on va aller vous faire une échographie, on va aller vous faire une imagerie médicale. » Puis là, il vous revoit puis il vous dit « Ah, c'est pas super beau, il va peut-être falloir opérer. » OK. Vous allez-tu lui dire « Non, docteur, c'est correct, là, je pense que vous moquez de moi, mais je ne vous crois pas. » Non. Il y a une asymétrie d'informations extrêmement forte. Peut-être qu'en fait, vous n'en aviez pas du tout besoin du pontage. Comment vous allez le savoir? Impossible. Le consommateur n'a pas de contrôle sur la quantité de services qu'il va consommer. Supposons que vous allez voir un médecin pour, je ne sais pas, les yeux, puis là, il vous dit « Revenez me voir dans 4 mois. » Peut-être que ça ne sert à rien. Peut-être qu'il a juste envie de refacturer une visite dans 4 mois. Mais est-ce que vous allez lui dire « Docteur, bon, voyons donc, docteur, pour venir dans 4 mois. » Non, vous allez y aller, comme tout le monde, parce que c'est impossible pour vous de savoir quelle est la proportion des soins qu'on vous propose qui est réellement nécessaire. Mais il y a beaucoup de données qui suggèrent que ce n'est pas fonction de la maladie. Puis il y a des super études, le graphique qui est là est tiré d'une en particulier, qui montre qu'il y a une association très forte, par exemple, entre la proximité géographique entre là où vous habitez aux États-Unis et un hôpital qui fait de la chirurgie cardiaque, et le volume de chirurgie cardiaque que va recevoir la population en question. Plus vous habitez dans une région qui a beaucoup de chirurgiens cardiaques et d'hôpitaux qui offrent la chirurgie, plus la population dont vous faites partie va se faire opérer. Là, les gens se disent « Wow, c'est fou! » Mais peut-être que c'est parce que comme ça...
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional student and community productions in and around Montreal, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah DeA, recording from home on Thursday, August 25th, 2022. On tonight's show, two shows that made a splash at the Fringe Fest in June are getting polished for a second look next week in a company that highlights emerging artists, tackles fame and success under a new leadership team. My guest this evening, Kristen Govers, lives with cerebral palsy, and she documents her journey balancing ambition with daily challenges from childhood to adulthood in The Awkward Ballerina.
I wanted people to understand that despite obstacles, you can do the things you want to do. Maybe they have to be a little different, but you can do them. And so that was the whole premise of this show. And for people to understand that, you know, everybody has things. We all have things, and we all have to live with those things, whatever they are.
Rebecca Gibeon assumes the mantle as co-artistic director at Persephone Productions with Layla Gayemi.
Certainly in terms of the shared values, I think she